Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous fait un zapping de bons plans tellement excellent que vous n'aurez plus jamais le temps de vous ennuyer. Bonjour à tous et bienvenue sur Positron, l'émission qui vous donne trois bons plans en 20 minutes. On vous parle de ciné, de musique, de livres, de BD, de jeux vidéo, de plein de choses pour peupler votre week-end, pour animer votre vie si elle est un peu terne. On y remet de la couleur. Je suis Patrick Béja et je suis accompagné aujourd'hui d'une équipe de choc qui va, je n'en doute pas, surpasser en tout point ceux qui les ont précédés. J'ai nommé Jean de Papa à quoi tu joues, et on peut dire ton nom complet, Jean-Noël.
Oui, bonjour.
Et Guillaume Vendée de Tech Café notamment, qui est aussi, Guillaume, la personne qui maintient depuis maintenant des années le document général de tous les positrons.
Comment tu sais que c'est fou parce que... Salut Patrick, salut Jean. Salut. C'est fou parce que j'étais presque sur le point de te demander hier si on avait parlé d'une des recos Positron et j'ai eu la présence d'esprit avant de te contacter de regarder moi-même dans le document que je m'ajoute moi-même.
Bah, en même temps, tu sais, le document qu'on tient est complet aussi, donc t'aurais pu faire une recherche là-dedans. Mais
oui, tout à fait.
Ouais. C'est vrai. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, c'est bit.ly/allpositron avec le S à la fin. On mettra le lien là dans les notes de l'émission pour que vous puissiez retrouver tout ça. Ils sont classés en fait, en plus super bien fait et tout. Donc un plaisir de te recevoir, Guillaume, et bien sûr comme toujours un plaisir de recevoir Jean dans toutes les émissions auxquelles il participe. C'est ta deuxième apparition dans Positron, Jean.
Oui, c'est ça. Donc je suis content vu qu'il fait froid dehors, il fait chaud chez toi. Je suis content d'être là.
La chaleur, c'est dans les cœurs. C'est ce qu'il faut. Voilà. C'est ce qu'il faut se dire. Bon, bah écoutez, merci à tous les deux d'être là. J'espère que on va passer un très bon moment ensemble. 4 épisodes, une session complète comme d'habitude, et on va l'ouvrir avec une série télévisée qui est un petit peu controversée. Elle polarise beaucoup. J'aimerais savoir si vous deux déjà, vous avez déjà regardé, si vous appréciez Buffy contre les vampires.
Ah mais tous les week-ends, j'étais devant M6. Je ne pouvais pas rater un épisode. Je les enregistrais quand je ne pouvais pas.
Hein. Très bien, donc tu es un fan. Guillaume, toi, tu connais ?
Alors, je sais pas si je peux dire que je suis encore un fan parce que c'est dans mes souvenirs, mais moi aussi, je faisais partie des aficionados de la trilogie du samedi et j'aimais beaucoup. Ouais.
D'accord.
J'ai presque honte de le dire maintenant, mais j'aimais beaucoup.
Ouais. Très bien, très bien. Non, mais je vois qu'on est entre gens de qualité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des souvenirs émus de cette série pour un certain nombre de raisons. Je vais peut-être commencer par expliquer pourquoi certains d'entre vous pensent avec une partie de raison que la série est vraiment le bas du panier des séries B. Parce que c'est vrai que quand on évoque Buffy contre les vampires, la première image qui nous vient à l'esprit, c'est des effets spéciaux super mauvais, une histoire un petit peu ridicule où c'est des adolescents qui vont combattre des vampires avec des... En fait, c'est surtout la qualité des effets spéciaux, des maquillages, les décors sont pas super bons non plus, enfin... La qualité de production de la série fait vraiment série bon marché, on va dire. Et donc, on peut tout à fait comprendre que, à première vue, la série ne soit pas très ragoûtante. Et je vais avouer un truc, c'est que Moi-même, quand j'avais des amis qui m'en parlaient et qui me disaient c'est une super série, c'est hyper bien fait, enfin c'est vraiment une qualité d'écriture excellente. Et donc je me suis dit bon bah je vais essayer parce que a priori moi j'étais vraiment dans le camp des gens qui disaient mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, c'est mal foutu, c'est ridicule, c'est idiot et voilà. Et je sais pas pourquoi. J'ai tenu la saison 1 entière. Et quand je dis je sais pas pourquoi, c'est parce que vraiment, quand on regarde le premier épisode et le deuxième et le troisième, c'est exactement ce dont on a peur. Et moi-même, je déteste quand les gens me disent « Ah oui, mais il faut tenir, déjà si on me dit « Il faut tenir 5 épisodes et ça devient super », je trouve ça trop long, quoi. Et pourtant, comme on le disait, enfin comme on l'a dit régulièrement, parfois les meilleures séries, on n'en acquiert le goût qu'au bout de 2 ou 3 ou 4 épisodes, et au début, on est un petit peu, c'est pas ragoûtant. Et ben dans Buffy, il faut mettre autant d'efforts que le début est pas ragoûtant, parce que comme je le disais, la première saison entière, c'est exactement cette série B ridicule d'horreur, sirupeux et mal foutue. Et pourtant, quand on passe la première saison, qui est une saison courte, elle doit faire 13 épisodes, on commence à s'attacher aux personnages et surtout, on commence à découvrir la qualité d'écriture de cet auteur qui est devenu une icône geek, qui est Joss Whedon. Et Joss Whedon, en fait, il fait un truc qui a lancé un style vraiment qui est maintenant relativement commun, mais qui est l'héritage. En fait, Joss Whedon est l'héritier de la pop culture des années 80 et 90. C'est quelqu'un qui écrit non pas les poncifs de la pop culture, il écrit pas ses séries comme on les écrit avant, il joue autour des moments attendus. Des choses où on se dit « Ah bah oui, non mais là, un tel, il va tomber amoureux de machin, un tel, il va mourir, un tel, il va... Là, le grand méchant, c'est lui, là, ils vont se battre contre le grand méchant à tel endroit. » Il joue avec toutes ses attentes, avec tout ce qu'on sait tous qui va arriver, parce qu'on a l'habitude de toutes ces séries, de toute cette... des BD, des films de toutes ces années. Et il t'emmène à un endroit où tu ne pensais pas qu'il irait, avec énormément d'humour, d'émotion, de force, et une écriture, là encore, qui est intelligente, qui est drôle, les dialogues sont drôles, les personnages sont attachants, et il le fait d'une manière qui était, à l'époque, alors Buffy, ça date de 97 quand même, il y a eu 7 saisons, il le fait d'une manière qui est inattendu, on va dire, et avec beaucoup de talent. Et je sais pas si je peux décrire beaucoup plus que ça de la série, parce que à la limite, le propos de la série importe peu. Oui, Buffy, c'est une, je sais plus comment elle s'appelle en français, une slayer, enfin une tueuse de vampires, et elle a des amis.
Tueuse.
Voilà, c'est la tueuse, elle a des amis qui sont au lycée avec elle, et puis il y a des vampires, il y a des gentils et des méchants, il y a des... Enfin, l'histoire, en fait, importe peu, c'est juste que c'est dans la droite ligne de la culture pop, mais avec cette tournure, ce zeste en plus, qui fait que c'est particulier et c'est différent de tout ce qu'on connaît, de tout ce qu'on connaissait jusque-là en tout cas. Et il a utilisé un petit peu ces caractéristiques dans ce qu'il a développé dans Avengers, dans les films Marvel, avec ce genre d'humour un petit peu tordu, mais bien trouvé. Donc voilà, c'est ma description de Buffy. Il y aurait plein de manières de le décrire, mais je sais pas si vous avez des choses à ajouter peut-être.
Je suis assez d'accord sur le truc de l'humour. Il avait déjà à l'époque ce truc de la bande de potes qui va se vanner sur certains trucs, et ça fuse dans beaucoup de sens à la fois, et ça fait toujours mouche, et c'était vachement agréable. C'était vachement agréable, ça, je trouvais, moi.
Ouais. Vas-y, vas-y.
Au-delà de la série télé, hein, d'ailleurs, ça a été, comme tu le dis, hein, ça a été une icône à l'époque, parce que, enfin, je me rappelle qu'il y avait énormément de produits dérivés qui sont arrivés après. Je me souviens même, moi, je faisais beaucoup de jeux de rôle à l'époque. Il y avait même un jeu de rôle Buffy contre les vampires qui arrivait, un jeu de cartes à collectionner. Ça a été vraiment tout un univers, quoi. Et c'est clair qu'aujourd'hui, alors, je sais pas si aujourd'hui, moi, je sais pas quel sera ta reco au final, c'est pour tous et pour fans et auquel cas pour quel fan. Mais j'aurais peut-être du mal quand même à aller le conseiller par rapport à tout ce qu'on a dans l'éventail des choses qu'on peut regarder. Mais par contre, pour la culture de ce que ça représentait à l'époque, c'est clair qu'il faut au moins le connaître et avoir vu passer le truc, c'est clair.
Ouais, c'est vrai que, alors je le recommanderais pour les fans, hein, c'est sûr que c'est compliqué de le recommander à tout le monde parce qu'effectivement, c'est particulier et vraiment il faut y mettre de soi. Ça devient presque une exploration archéologique aujourd'hui de regarder Buffy parce que la qualité, comme on le disait, de production est quand même pas au top. Donc, c'est un petit peu compliqué, effectivement, de se plonger dedans. Mais tu parlais d'icônes. C'est vrai que Buffy était l'un des premiers personnages féminins forts dans les séries télé. Et c'était vraiment une intention de Joss Whedon. Et il y a même eu le premier baiser homosexuel à la télé. Je gâcherai pas la surprise de vous dire entre qui. Mais bon, c'était des filles, donc c'est comme toujours, hein, les filles, ça fait un petit peu les lesbiennes font un petit peu moins de vagues que les gays généralement dans la société, mais il n'empêche, c'était le premier baiser homosexuel à la télé sur une chaîne classique, donc c'était innovant de différentes manières vraiment.
Et moi je me rappelle, c'était fou ce moment-là où ça arrive, d'autant que le personnage en question était mon personnage favori, et je me suis dit, mais sans vraiment en être conscience, mais là il se passe quelque chose à la télé, il se passe quelque chose, c'est pas comme d'habitude, il y a un truc là, voilà.
Ouais, ok. Bon, donc voilà, c'est Buffy, c'est très spécial, c'est un truc unique, enfin pas unique, mais c'est la naissance de mon amour pour Joss Whedon et c'est vraiment la série qui m'a appris que parfois il faut insister pour apprécier quelque chose et que c'est pas du premier coup qu'on va comprendre pourquoi c'est intéressant, même si j'applique pas forcément le mantra autant que je devrais. Et c'est vraiment une recommandation, comme je le disais, compliquée parce que c'est plus une profession d'amour qu'une recommandation, parce que je pense que les gens qui auraient pu l'apprécier l'ont déjà vu, et si vous l'avez pas encore vu, peut-être que ça sera compliqué de vous mettre dedans. Donc bon, mais c'est quand même ma recommandation, parce que je peux pas faire un podcast où je recommande des trucs cool sans parler de Buffy. Donc voilà, c'est Buffy contre les vampires, il y a 7 saisons et même les dernières sont bien foutues, il y a des épisodes légendaires, l'épisode comédie musicale, et moi pourtant qui suis pas un fan de comédie musicale, qui est incroyable, les dernières saisons où ils continuent, à chaque fois on se demande qui va être le grand méchant et il y en a certains où c'est quand les grands méchants c'est les trois couillons qui sont juste trois couillons, et c'est quand même, ils essayent d'être les grands méchants. Enfin, j'ai presque, ça me donne envie de la revoir, la série. Mais bon, voilà, c'est Buffy contre les vampires, c'est inoubliable, c'est légendaire. Et je vous encourage, si vous vous dites que vous voulez connaître un petit peu l'histoire de l'évolution de la culture pop, c'est un truc qu'il faut avoir regardé. Donc, voilà.
Il y a eu des spin-offs aussi, non? Il y avait le personnage
d'Angel. Ouais, il y a eu Angel qui était très bien, la série aussi super bien. Angel qui va travailler dans la société des démons. Enfin bon, c'est ça le problème avec Buffy, c'est que quand tu racontes de quoi il s'agit, ça a l'air tellement con, mais tellement
c'est
con.
C'est pas vendeur.
Tu dis Angel, c'est un vampire qui est quand même gentil et puis il veut combattre les démons, mais après il se fait offrir un poste dans la société qui est gérée par les démons et tu dis oh là là, mais de quoi tu parles quoi? Et pourtant c'est d'une intelligence rare et c'est compliqué de faire comprendre et de faire admettre qu'un truc qui a l'air aussi con est en fait tellement intelligent. Et je comprends que les gens ne croient pas, mais bref, Buffy contre les vampires, lancez-vous, vous ne le regretterez peut-être pas. Bon allez, on avance. Jean, de quoi nous parles-tu aujourd'hui ?
Alors moi, la dernière fois, je me suis beaucoup retenu, hein, parce que moi, je fais du podcast sur le jeu vidéo et je me suis retenu de pas parler de podcast de jeux vidéo, parce que voilà, je me suis dit, faut quand même montrer que je sais parler d'autre chose. Mais là, voilà, je vais parler d'un jeu vidéo et ça va peut-être être une de tes recommandations les plus bizarres, puisque je vais recommander un truc que je n'ai pas aimé.
Ah oui, d'accord, oui, ok. Bon. Intéressant.
Donc, je vais parler de The Last Guardian, qui est sorti courant décembre, et qui est basiquement l'histoire entre un enfant et une grosse bête. Donc, c'est un jeu de Fumito Ueda qui est une arlésienne du jeu vidéo, qui a été prévu à la base sur PS3, qui est la suite spirituelle de Ico et de Shadow of Colossus. Mais ça, tous les possesseurs de PlayStation, qu'elles soient 2, 3 ou 4, normalement le savent déjà, puisque c'est une sorte de légende dont tout le monde a entendu parler. Et donc, c'est forcément un jeu qui cristallisait beaucoup de rêves, beaucoup d'espoir, parce que on est au final assez peu à ne pas avoir apprécié, je dis pas aimé, mais apprécié soit Ico, soit Shadow.
Et c'est sûr que c'est un travail particulier dans le jeu vidéo.
Ouais, voilà, c'est ça.
Une qualité artistique qu'il est difficile de nier, même si c'est pas forcément des jeux qu'on va aimer pour les qualités de vidéoludique, on va dire. Enfin, de gameplay.
Voilà. Ouais. Et donc là, pour The Last Guardian, en fait, Ueda nous donne à peu près une recette basique similaire, c'est-à-dire un jeu qui se base sur la relation entre deux personnages. Donc là, les deux personnages, c'est un petit garçon d'une dizaine d'années et Tricot, une grosse bête, chat, chien, griffon, qu'on dit mangeuse d'hommes. Et donc les deux personnages se réveillent dans une sombre grotte et on ne sait absolument pas ce qu'ils font là et le petit garçon ne sait pas non plus ce qu'il fait là. Donc on incarne le petit garçon et on va vite constater que la bête elle n'est pas hyper en forme et on va commencer le jeu par s'occuper de cette bête, cette créature pour la remettre sur pied. Elle a quelques pieux plantés ici et là. Et on voit qu'elle a du mal à se lever. Donc, Tricot méfiant, ne se laisse pas approcher. Il va falloir essayer de l'amadouer un peu. Donc, pour l'amadouer, c'est pas compliqué. On lui donne à bouffer. Et après, on va pouvoir la soigner, lui retirer les pieux, etc. Et les deux protagonistes vont devenir compagnons de voyage pendant tout le jeu. Donc, pour essayer de se sortir de là. Parce que, voilà, ils ont beau pas savoir où ils se trouvent, eh bien, il va falloir sortir de cette grotte et de tout ce château, puisque c'est une sorte de château situé quelque part dans le monde. Tout au long du périple, en fait, ils vont s'aider. Chacun va apporter des choses à l'autre. Donc, au départ, le petit garçon va essayer de faire comme il peut. Et puis, au bout d'un moment, la bête va se mettre à un endroit et pour faire comprendre au petit garçon que ce serait bien qu'il lui monte dessus pour pouvoir accéder à la plateforme en haut. Donc, Tricot est géré par une IA. Une IA qui divise, en fait, les joueurs. Parce que c'est là que le jeu commence à diviser les joueurs. En fait, c'est aucune personne, comme tu l'as dit, Patrick, hein, aucune personne ne renie l'aspect artistique du jeu. C'est très beau. C'est pas à tomber par terre non plus. Hein, mais voilà, il y a la vraie patte de Fumito Ueda. Je lui reproche quand même de pas se renouveler des masses, parce qu'au niveau texture, on est dans un Ico, et au niveau architecture, on est dans Shadow. Et enfin, pour moi, c'est pas très très renouvelé. Si on aime bien ne pas être en terre inconnue, c'est limite, on se glisse dans ses chaussons. Et donc, ça, c'est très bien. La relation fonctionne, voilà, c'est l'IA en fait, moi qui m'a sorti, parce que le capital sympathie, ouais, vas-y.
Non, parce qu'en fait, la grande qualité, ou en tout cas ce dont on parle quand on parle de The Last Guardian, c'est justement le personnage de la bestiole qui se comporte, c'est ça la grande force, c'est qu'il se comporte comme un animal de compagnie, quoi.
C'est ça. Alors moi, j'ai essayé de l'analyser un petit peu, et déjà, la première chose qui me chiffonne un petit peu, c'est le capital sympathie de Tricot, qui en fait repose sur des gros câbles. Hein, c'est pas des ficelles, c'est des gros câbles. Le premier truc, c'est les grands yeux noirs du chapeauté. C'est voilà, Tricot, son premier capital sympathie, c'est ça. Quand il nous regarde avec ses grands yeux noirs, on est en fait ouh, ouh, il est mignon, machin. Et on peut passer vraiment, hein, on peut passer un temps infini à le caresser, lui faire des papouilles. Et il y a pas de problème. Hein, si on est addict de ça, il y a pas de problème. On peut passer vraiment beaucoup de temps à ça.
D'autant mais toi plus qui as un cœur de pierre, ça t'a laissé froid.
Ben non, mais voilà, parce que moi je sentais les ficelles et qu'on voulait me pousser à aimer. Cette bête, en fait.
Ah bah c'est sûr, et, oui, c'est tout le principe du truc, c'est la relation entre les deux, donc.
Voilà, et j'ai trouvé que ça se faisait pas hyper naturellement, et quand le fait de le caresser, c'est pas juste une blague, hein, parce que à chaque fois qu'il va y avoir un combat, eh bien, il va falloir calmer Tricot, et donc il va falloir lui monter dessus et le caresser, le gratouiller le cou, etc., pour qu'il arrive à se calmer et puis qu'on puisse continuer à avancer. Voilà, donc déjà il y a ça. Petite parenthèse, pareil, les combats, je les trouve pas hyper passionnants. Il suffit juste de la bestiole les trois quarts du temps et c'est lui qui va s'occuper de tout. Donc, au niveau immersion, moi, j'étais pas voilà. Et donc l'IA, donc comme tu me l'as dit, comme tu l'as dit, c'est censé être un animal, un vrai animal qui forcément ne réagit pas au doigt et à l'œil, parce qu'à un moment de l'aventure, on va pouvoir donner des ordres parce que la relation commence à se tisser entre les deux personnages et le petit garçon va pouvoir donner des ordres à Tricot. Et donc, ça, Tricot ne réagit pas au doigt à l'œil. Globalement, il réagit bien, il comprend ce qu'on veut. Seulement, ben voilà, y a certains joueurs qui n'ont pas bien compris le principe de comment se faire comprendre par la bête. Et la bête, elle va pas apprendre ta façon de parler. C'est à toi de te mettre à son niveau pour dire regarde là-bas, eh bien saute là-bas. Et donc, moi, de ce que j'ai pu constater, il y a un ordre à respecter.
Mais du coup, tu as l'air de critiquer énormément le jeu. J'imagine que tu vas y arriver, mais pourquoi est-ce que tu le recommandes en fait?
Parce que, tu vois, moi, tous ces trucs-là m'ont sorti complètement du jeu. Et je parle pas de la caméra qui est souvent aux fraises. Et juste un petit mot sur le gameplay qui m'a fortement déplu également, parce que le petit garçon soit tu vas tout doucement avec ton stick et dans ce cas-là il va sur la pointe des pieds, soit t'appuies un peu plus fort et là il court comme un pantin désarticulé. Il n'y a pas un entre-deux, et des fois pour les phases de plateforme où il faut être un peu précis, ça m'a frustré plus d'une fois. C'est même jusqu'à aller vers la fin du jeu, j'étais dans un passage et je savais pas quoi faire. Il me semblait avoir tout essayé, etc. Et au bout de 15 minutes, j'ai dit non, bah tant pis, je vais aller voir sur Internet. Je suis allé voir sur Internet et en fait, il fallait faire une action que j'avais déjà essayé de faire trois fois, mais sans jamais y arriver. Donc,
alors,
voilà.
Encore une fois, j'ai bien compris pourquoi tu l'aimes pas. Mais pourquoi tu le recommandes alors?
Alors maintenant pourquoi alors déjà je le recommande pas à tout le monde, je le recommande aux fans parce que il faut être préparé à encaisser tous ces petits défauts, ce que moi je n'avais pas. Et c'est pour ça qu'à chaque session, j'y allais de moins en moins avec plaisir. Par contre, si la lenteur d'un jeu ne vous gêne pas, et parce que j'ai pris du plaisir quand même, mais j'ai pris du plaisir sur les deux ou trois dernières heures parce que l'histoire commençait à se lever, parce que là je sentais une vraie interaction entre Tricot et mon personnage, et parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent. Sinon, la grande première partie du jeu, c'est on va essayer de monter dans ce château, on va essayer de monter toujours plus haut et c'est tout. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que je le conseille parce que Fumito Ueda et parce que il faut voir pour à quoi ressemble la suite spirituelle de Ico et de Shadow, parce que mine de rien, c'est un jeu qui accuse son âge, c'est un jeu qui accuse son retard de développement, mais c'est un jeu comme il n'en existe pas. C'est un jeu qu'il faut avoir fait. C'est pour ça que je le recommande, parce que qu'on l'apprécie ou pas, pour moi, il faut l'avoir fait. Je dis pas qu'on va en ressortir déçu. Moi, je suis content de l'avoir fait. J'ai pas aimé foncièrement y jouer, même si la fin, je l'ai trouvé très très bien. J'ai pas aimé foncièrement y jouer, mais je conseille à tout à chacun de jouer à ce jeu parce que c'est quelque chose que on n'a jamais eu. C'est quelque chose qu'on n'aura jamais. Et voilà.
Donc, c'est pour la qualité en fait, là encore, artistique du projet, quoi. C'est un morceau de l'histoire du jeu vidéo.
Voilà. Et encore, moi, tu vois, tout ce qui m'a sorti du jeu pour avoir fait ma petite enquête à droite à gauche, Et eh bien, moi, ce que j'ai ressenti du jeu, d'autres joueurs ne l'ont absolument pas ressenti, ou l'ont ressenti si minimement que le côté poétique et poétique de l'IA de Tricot a complètement effacé tout ça. Mais j'étais sans doute un peu trop dans l'analyse, et du coup,
tu t'es pas laissé porter par le truc.
Voilà,
quoi.
Voilà. Sauf, je te dis, sur les deux ou trois dernières heures où là, le jeu a vraiment réussi à me porter, et là, j'étais vraiment content d'y jouer. Sauf pour les 15 minutes là dont je parlais que j'ai pas réussi à m'accrocher sur la plateforme. Mais sinon, j'étais vraiment content de le faire. Et voilà. Donc, je le conseille aux gens qui se sont un tant soit peu intéressés à Fumito Ueda et à Ico et à Shadow of the Colossus. Il faut le faire. À un moment ou à un autre, il faut le faire. C'est un incontournable. Maintenant, il faut le faire pour savoir si on l'apprécie ou pas. Mais dans tous les cas, ce n'est pas un achat que j'estime inutile. C'est quelque chose qui va s'ajouter à la culture, à notre culture vidéoludique, parce que il m'est d'avis que c'est un incontournable.
D'accord. Ok, eh ben écoute, merci beaucoup Jean. C'est ton co-tour de Guillaume.
Alors moi, je vais peut-être pas être dans la prolongation de ce que vous faites, parce que vous faites des anti-recos. Moi, j'ai compris votre système pour cette session. Vous faites des recommandations d'icônes, mais pas forcément à suivre en tant que tel. Moi, je vais essayer de vraiment vous convaincre d'aller vraiment vous plonger dans une série de romans de fantasy. Alors, on va pouvoir les retrouver sous différentes dénominations, mais notamment le premier tome s'appelle L'Assassin Royal, et c'est comme ça qu'on va retrouver en français toute la série des bouquins. Il y en a beaucoup de ces bouquins. Il y en a une quinzaine de tomes, je crois, à ce jour, et il y en a d'autres qui sortent là en ce moment. Ça a été écrit par une auteure américaine qui s'appelle Robin Hobb. En tout cas, c'est son pseudo, puisqu'elle emprunte différents noms en fonction des sujets qu'elle écrit. Et c'est une série de romans de fantasy qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué sur la fin de mon adolescence, à une période où je faisais, comme je disais tout à l'heure, pas mal de jeux de rôle, et ça m'a vraiment bercé dans la fantasy, parce que c'était quelque chose de très différent de ce qu'on avait l'habitude de voir. Évidemment, on a tous, quand on parle d'heroic fantasy et de tous ces univers-là, des choses comme Le Seigneur des Anneaux en tête, qui sont très, très oniriques, avec plein de races différentes, etc. Et là, dans la série de l'Assassin Royal, on a quelque chose d'au contraire très humain, où il y a quand même des côtés un peu fantastiques, pas aussi poussés que dans des choses comme Game of Thrones par exemple, mais il y a des éléments de magie, il y a des éléments surnaturels, mais qui sont pas omniprésents. Et c'est tout un récit où on va suivre donc le personnage principal, qui est un bâtard, qui est le bâtard du prince héritier du royaume, qui a été caché pendant les premières années de sa vie, et puis à l'âge de 6 ans, il est ramené à la cour, et du coup le prince servant, son père, est obligé d'abdiquer et de se retirer, parce que c'est carrément la honte d'avoir un bâtard dans cette famille royale. Et du coup, par contre, Fitz, le personnage principal, le bâtard, est gardé au royaume, à Castelcerf, la capitale du royaume des Six Duchés, dans lequel a lieu l'intrigue.
Oh là là, et... ça y est, tu m'as déjà perdu, quoi.
Oh mince.
Bon, non, parce que vas-y, finis, mais je vais, moi en fait j'ai un problème avec ces trucs là mais tu vas me dire si ça correspond à mes peurs ou pas, mais vas-y. Alors, continue.
Je crois que je vais en même anticiper ce que tu crains, parce que je crois savoir que ce que tu n'aimes pas, c'est les trucs interminables avec des descriptions à rallonge, avec les fils de machin de trucs, avec les descriptions de paysages et d'environnement qui sont complètement surchargés.
Non, pas forcément. Non, moi ce que j'aime pas en fait, c'est la complexité pour la complexité. Tu vois, les trucs où il y a des noms à rallonge, effectivement, mais pour faire genre, on est créatif, ouais, et on est inventif. Alors que moi, je trouve que la complexité pour la complexité, c'est pas nécessaire. Tu peux faire des trucs simples, mais intéressants.
Alors, je le vends très mal, et je le présente très mal, parce qu'au contraire, tous les personnages, il y a une tradition dans ce monde-là où le nom doit refléter la personnalité, et les noms sont en général très courts. Il n'y a d'ailleurs pas de prénom, nom. Il y a effectivement des familles, mais très souvent, les personnages sont présentés qu'avec leur prénom qui les présente en tant que personne. Et même l'histoire, de manière générale, est simple. Il n'y a pas des intrigues entrecoupées les unes dans les autres. Mais par contre, c'est très facile à suivre, et c'est vraiment passionnant, je trouve, parce que c'est raconté à la première personne. Et donc, c'est le héros qui raconte son histoire comme si c'était une autobiographie, et on vit le truc avec lui. Alors évidemment, je ne vais pas raconter toute la suite. L'intrigue, si jamais je vous ai donné envie, vous la découvrirez par vous-même. Le titre vous donnera un indicateur de ce qui va se passer, de ce qui va arriver arriver sur ce personnage. Mais voilà, pour moi, c'est une suite de fantasy qui m'a vraiment passionné, qui est différente des autres suites de fantasy qu'on peut connaître et qui sont plus marketées ou qu'on peut retrouver dans des films. Je vous invite vraiment à jeter un coup d'œil pour essayer de voir si c'est pas quelque chose qui pourrait vous convaincre que la fantasy pourrait être faite pour vous.
Est-ce que c'est bien pour débuter la fantasy, justement ?
Ouais, moi j'irais le recommander pour le coup à tous, y compris pour débuter la fantasy. Je me rappelle que je l'ai recommandé à mon boulot il y a de ça quelques années à une collègue d'un certain âge qui s'est plongée dedans et qui s'est fait avoir et qui a découvert la fantasy comme ça et qui, bah, comme moi, quoi, a terminé un tome et lui faisait absolument le suivant.
D'accord. Tu nous rappelles le nom du truc,
alors hein. c'est l'Assassin Royal, on trouve ça sous, enfin c'est en tout cas le nom du premier tome. Alors après il y a les cycles de l'Assassin Royal, il y a tout ce qui s'ensuit derrière, et c'est écrit par Robin Hubb, une dame, enfin en tout cas c'est le pseudonyme sous lequel elle a écrit ça. Et puis il faut savoir aussi d'ailleurs qu'il y a un cycle qui se passe, qui est différent, qui prend d'autres personnages, qui se place dans le même univers. Ça s'appelle Les Aventuriers de la Mer, mais à la limite j'oserais dire que c'est quelque chose de très secondaire. Commencer par l'Assassin Royal, en plus ça se lit vite je trouve, et c'est justement pas complexe pour être complexe je trouve.
D'accord, ok. Peut-être pour donner des références, si les gens qui ont aimé Game of Thrones, c'est un petit peu... Tu en parlais tout à l'heure, mais c'est un petit peu le même...
Ouais, je fais des vrais parallèles. Oui, c'est aussi accessible, c'est peut-être même plus accessible parce que justement dans Game of Thrones, il y a les différentes familles qui s'entrecoupent et il y a toutes ces intrigues qui sont en parallèle. Là, il n'y en a qu'une, enfin je schématise beaucoup parce qu'il y a évidemment plein de choses qui se passent, mais il n'y a qu'une seule chose qu'on suit, c'est le personnage qui raconte sa vie. Et donc du coup, en termes d'univers, c'est assez comparable, mais en termes de scénario, c'est un petit peu plus simple, j'allais dire.
D'accord. Ok, très bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Guillaume. Ça s'appelle donc L'Assassin Royal. Moi, je vous ai parlé de Buffy contre les vampires. Et Jean a essayé de vous expliquer pourquoi vous ne devez pas jouer à The Last Guardian. Ou plutôt, si, vous devez jouer, mais pas aimer. C'est compliqué, cet épisode, dites-moi. Bon, bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné un petit peu d'inspiration. Avant de se quitter, comme toujours, je vais proposer à nos deux co-animateurs de nous dire où on peut les retrouver. J'ai oublié de dire par qui on commençait. Tiens, Guillaume.
Alors, vous cherchez Guillaume Vendée, vous me retrouverez facilement sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai lancé ce qu'on appelle un streetcast, qui est en gros un mini-podcast avec des épisodes de 5-10 minutes assez intimistes qui s'appelle La Voix de Guillaume. Donc, si vous voulez m'écouter régulièrement, c'est peut-être là que vous devez vous retourner.
Si vous voulez écouter Guillaume, si vous voulez avoir Guillaume dans les oreilles, qui vous raconte, qui vous susurre des mots doux, vous pouvez aller écouter La Voix de Guillaume.
C'est plein de promesses.
Jean, de quoi parles-tu? Où peut-on te retrouver?
Je vais te parler de mon site internet qui s'appelle papapodcast.fr sur lequel je fais du podcast et donc papa à quoi tu joues et papa à quoi on joue. Donc papa à quoi tu joues pour ceux qui n'ont pas forcément le temps de pratiquer intensément le jeu vidéo et qui aimeraient bien soit s'y remettre soit garder un pied dedans. On fait ça avec Arnaud et David et papa à quoi on joue toujours avec les mêmes co-animateurs et avec un invité peut-être à chaque émission. Là on a lancé le principe où là on essaye de vous recommander des jeux à faire avec les enfants.
Magnifique, merci beaucoup Jean et merci Guillaume. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook et vous retrouvez cette émission et beaucoup d'autres sur frenchspin.fr, le site qui héberge toutes mes productions. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis et on vous retrouve évidemment dans 15 jours avec une nouvelle série de 3 recommandations qui, j'espère, ce coup-ci, seront de vraies recommandations qu'on peut vous dire d'aller voir sans hésitation. On vous fait des bises. Ciao.
Ciao.
Thank you.